Je vais parler des choses moins anciennes, disons, lors de la première séance, puisque j'aurais essentiellement évoqué des travaux de philosophes et de juristes du 19e et surtout du 20e siècle. Le positivisme juridique a acquis une position dominante au milieu du 19e siècle. Les raisons de ce phénomène sont diverses. À partir de la fin du XVIIIe siècle, les axiomatiques jus naturalistes se trouvent dévaluées en raison même de leur succès. La traduction que les principes du droit naturel ont reçu lors des révolutions américaines et françaises les a rendus, ces principes, suspects aux yeux de ceux pour qui l'égalité des droits était synonyme de chaos. L'essor du positivisme juridique accompagne par ailleurs l'entreprise de codification du droit civil et pénal qui, partie de France, a gagné l'ensemble de l'Europe, à l'exception, bien sûr, de la Grande-Bretagne et des pays de Commonwealth. Le droit, codifié et constitutionnalisé, n'éprouve plus, semble-t-il, le besoin de se fonder sur une autorité supérieure, religieuse ou même politique. Il prévoit lui-même, minutieusement, les formes de son édiction et de sa transformation. Toutefois, le positivisme juridique éprouve des difficultés à définir la position des droits. Il hésite à y intégrer des droits autres que ceux qui sont définis par la loi positive, en particulier, bien sûr, ce qu'on appelle les droits de l'homme, que leur origine jus naturaliste rend suspect, et plus encore, il hésite à leur accorder une position fondatrice. Ce n'est pas que les positivistes soient, comme les contre-révolutionnaires, des adversaires du principe même de l'idée des droits de l'homme, une série d'exemples, notamment en ce qui concerne les positions des contre-révolutionnaires, dans l'excellent livre de Justine Lacroix et Pierre Franchère, intitulé Le procès des droits de l'homme, qui est paru il y a quelques années. Notamment lorsque les positivistes, les représentants du positivisme juridique, adoptent une conception qu'on a appelé impérativiste du droit, leur conception du droit, qui veut dire the law, est telle que les droits, the rights, ne peuvent y avoir qu'une position dérivée. C'est ce qui explique clairement, par exemple, la théorie kelsenienne des droits reflets. En substance, Kelsen explique que dire que A a un droit revient à affirmer que B a une obligation envers A, de sorte que la notion de droit, de right, de droit subjectif, est subordonnée à celle d'obligation, voire, éventuellement, totalement superflue. De surcroît, en s'interdisant toute fondation métaphysique des droits, le positivisme juridique doit soit évacuer complètement cette notion, c'est ce à quoi conduit finalement la position de Kelsen, soit à imaginer une justification des droits qui écarte tout élément relevant d'un raisonnement jus naturaliste. Premier point, premier temps dans mon exposé, je l'ai intitulé « Un monisme réducteur, le positivisme impérativiste de John Austin ». Au début du concept de droit, de son livre « Le concept du droit », Herbert Hare, son livre le plus important, « Les hommes du droit du XXe siècle » avec Kelsen, Herbert Hare critique la conception qu'il qualifie d'impérativiste, la conception du droit qu'il qualifie d'impérativiste, développée par, au XIXe siècle, par John Austin, dans conférences qui ont été publiées sous le titre The Province of Jurisprudence Determined, publiée en 1832. Selon Austin, Je l'avais déjà évoqué rapidement la dernière fois. À propos de sa surprise quand il découvre que les juristes allemands commencent à parler de droits subjectifs, de droits objectifs, et de qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, etc. Selon Austin, le droit est un ensemble de commandements assortis de menaces adressées par un supérieur à un inférieur. Or, d'abord, cette conception n'offre pas de réponse à la, ce que vous appellerez la question mortelle de Saint-Augustin, à savoir, qu'est-ce qui distingue un État d'une bande de voleurs? Disposons-nous d'un critère qui nous permette de dire quelle est la différence entre une bande de gangsters ou de voleurs de grand chemin et un État. Un libertarien cohérent vous dira aucune différence. Mais bon, outre ce fait, cette conception impérativiste ne tient pas compte de tout un ensemble de normes, celles que Hart qualifie de règles secondaires, sont, dans sa terminologie, des règles de reconnaissance, de changement et de décision. Bref, des règles portant sur des règles primaires. Or, ces règles primaires, les règles substantielles, si l'on veut, ceci est interdit, ceci est autorisé, etc., sont les seules que prend en compte la définition austinienne. À vrai dire, c'est la notion même de right qui, en raison de ses connotations potentiellement subversives, est suspecte aux yeux d'Austin, sur ce point, fidèle continuateur de son maître, Jeremy Bentham. Selon lui, les choses sont claires, selon Austin. Les choses sont claires comme pour Bentham, je cite Austin, « Every legal right is the creature of a positive law. » Et cette loi elle-même, qui crée les droits, est un commandement adressé par le souverain à ce sujet. À l'objection évidente selon laquelle il existe bien des lois qui créent des droits, Austin répond que la loi peut certes créer indirectement des droits, mais qu'elle institue toujours d'abord une obligation. Par exemple, le droit de propriété résulte de l'obligation faite à autrui de ne pas s'approprier ce qui est mien. Provenant de Bentham, cette thèse de la secondarité des droits par rapport aux obligations pourrait bien être une caractéristique de la conception positiviste des droits, au moins dans ses variantes dures, si l'on veut. Car, on va le voir plus tard avec Hart, justement, il existe des versions plus souples du positivisme. Reconnaître aux droits une marge d'autonomie par rapport aux obligations définies par la loi peut en effet, c'est une crainte que Austin partage avec un autre penseur, on va dire, plutôt conservateur, cela peut ouvrir la voie à l'idée de l'existence de droits indépendants et supérieurs à la loi juridique positive, ce qui est inacceptable dans la perspective de ce que les Allemands nomment Gesetzespositivismus, le positivisme de la loi. La loi, seule source de la loi, et comme on sait, Gesetzespositivismus, la loi, c'est la loi. Quoi? Il convient cependant de nuancer cette présentation trop tranchée chez Austin lui-même. Tout d'abord, Austin a le mérite, mais ici aussi il a été précédé par Bentham, de mettre en garde contre un usage indiscriminé du langage des droits. On a tendance à ignorer la différence entre un usage descriptif de la notion, un droit est une faculté conférée par la loi, et un sens évaluatif de cette notion, un droit correspond à ce qui est juste. Or, que j'ai le droit d'accomplir telle action ne signifie pas, bien entendu, que cette action soit ipso facto juste. Par ailleurs, Austin admet l'existence d'autres domaines de normativité que celui du droit. À côté des legal laws promulgués par le souverain, il existe des dealing laws institués par décret divin et des moral laws fondés sur l'opinion dominante de la société. Mais quel que soit le domaine concerné, les droits, pour Austin, ont toujours un caractère dérivé par rapport aux obligations, et c'est pourquoi, je cite, an explanation of the expression right cannot enter into the attempt to determine the province of jurisprudence. explication de l'expression droit ne peut pas faire partie de la tentative de déterminer le champ de la science juridique. C'est clair. Les droits n'appartiennent pas à une définition du droit. En tout cas, ils n'y appartiennent que de manière adventice. C'est contre ce type de position secondarisant le droit que Dworkin, un siècle et demi plus tard, enjoint les juristes de prendre les droits au sérieux. Point suivant. Entre moralisme et utilitarisme, la nature des droits selon Herbert Lionel Adolphus Hart. Dès ses premiers articles, Hart a consacré un grand, outre son célèbre texte The Concept of Law, excellemment traduit par mes collègues belges, Hart a écrit une masse considérable d'articles et notamment il a beaucoup, beaucoup réfléchi à tenter de définir dans une perspective positiviste souple ce que peut être le statut des droits. Dès ses premiers articles, Herbert Hart s'est préoccupé des droits et notamment d'une question hérétique pour un positiviste dur comme Bentham, Austin ou Kelsen, celle de l'existence et du statut à côté des droits juridiques, legal rights, de droits moraux, moral rights, et même, éventuellement, pourquoi pas, de droits naturels, natural rights. Dans ses nombreux écrits sur les droits, Hart se mesure avec constance à son meilleur ennemi, l'utilitarisme, dans lequel il perçoit le principal obstacle, à la théorie des droits qu'il s'efforce pour sa part de formuler et que l'on dénomme, c'est une dénomination classique, la choice theory of rights, théorie des droits fondée sur le choix. En gros, cette théorie consiste à dire, c'est pas qu'il a élaboré, que avoir un droit, c'est avoir la possibilité de l'exercer ou de ne pas l'exercer. C'est ça qui caractérise ce qu'est un droit. Alors que l'utilitarisme définit les droits comme des intérêts protégés. C'est contre cette définition des droits axés sur les intérêts que tout le travail de Hart concernant les droits est vérifié. C'est seulement en renonçant à penser, je cite Hart, dans l'ombre de l'utilitarisme, qu'on peut construire une théorie consistante des droits. En effet, si les droits ne sont pas seulement des intérêts juridiquement protégés, selon la formule devenue classique de Rudolf von Jering, grand juriste allemand de la deuxième moitié du XIXe siècle, il est possible, si les droits ne sont pas des intérêts juridiquement protégés, ils ne sont pas seulement des intérêts juridiquement protégés, il est possible de revenir sur l'interdit jeté par Bentham sur des droits autres que ceux, par Bentham et aussi, sur des droits autres que ceux qui sont créés par la loi, sans succomber pour autant au sophisme que ce dernier, Bentham, dénonçait avec virulence dans sa critique de la Déclaration française des droits. S'il y a lieu de critiquer les ambiguïtés de la notion de moral rights, c'est sur une autre base que celle sur laquelle se fonde l'utilitarisme qu'il faut le faire. Ce que récuse Hart, qui définit lui-même sa position dans la postface au concept de droit, consacré pour l'essentiel à répondre aux critiques que lui a adressées Ronald Dworkin, il définit sa propre position comme soft positivism, par opposition à un hard positivism incarné, par exemple, par quelqu'un. Ce que récuse le soft positivism de Hart, ce n'est pas le fait évident que le droit est toujours consciemment ou non le reflet de valeurs morales. Ce qu'il récuse, c'est plutôt le moralisme juridique, c'est-à-dire la position suivant laquelle le droit aurait à promouvoir certaines valeurs et à sanctionner leur non-respect, même lorsque les conduites qui contreviennent à ces valeurs ne nuisent pas à autrui. Sur ce point, Hart s'inscrit dans la droite ligne de John Stuart Mill, dont le fameux Hume Principle pose que, je cite Mill, la seule raison légitime que puisse avoir une communauté pour user de la force contre un de ses membres est de l'empêcher de nuire aux autres. Ce qui exclut, du point de vue de Mill et de ceux qui le suivent, aussi bien le paternalisme, empêcher quelqu'un de se nuire à lui-même, par exemple empêcher quelqu'un de se droguer ou d'abuser excessivement de l'alcool, cela exclut aussi bien le paternalisme que le moralisme juridique, contraindre quelqu'un, qui consiste à contraindre quelqu'un à respecter les standards moraux supposés devoir s'imposer à tous. Le livre de Law, Liberty and Morality, issu de conférences données à Stanford lors des débats qui ont précédé en Grande-Bretagne la dépénalisation de l'homosexualité, et ce livre, bien signalé, a été récemment et excellemment traduit dans la collection que Olivier Beau et moi-même avons le plaisir de diriger avec un commentaire substantiel de ce texte, de part de l'auteur de la traduction, de Donald Blythe. Donc ce livre illustre le refus hartien du moralisme juridique. Hart critique en effet la thèse de certains éminents juristes anglais passés, Stephen, juriste de la fin du 19e, et présent, Lord Devlin, adversaire principal dans ce texte, selon la thèse selon laquelle le droit aurait pour vocation légitime, sinon unique, the enforcement of morals. L'argumentation de Hart est très adroite. Au lieu de rejeter l'idée que le droit a quelque chose à voir avec la moralité, ce qui n'est d'ailleurs pas sa position, Hart fait une distinction entre ce qu'il nomme la moralité positive ou la moralité sociale, c'est-à-dire les normes morales qu'une société reconnaît comme valides, et ce qu'il appelle la moralité critique. On pourrait parler aussi de moralité des principes moraux de rang 2, il désigne par là les principes métanormatifs à l'aide desquels on peut évaluer les règles de la moralité positive. Il montre alors, d'une part, que le moralisme juridique, tel que je l'ai défini tout à l'heure, est solidaire d'une vision contestable de la moralité positive, concevant le châtiment comme une forme de vengeance sociale. Et d'autre part, il montre que la seule justification critique, donc de rang 2, que l'on pourrait donner au programme d'un legal enforcement of morals serait le principe de conservatisme moral selon lequel le maintien de valeurs particulières justifie d'infliger des souffrances à ceux qui n'adhèrent pas à ces valeurs. À ce principe métanormatif qu'il juge fallacieux, Hart, dans le droit fil de John Stuart Mill, oppose pour sa part deux principes qu'il estime valables de moralité critique. Premièrement, ça c'est mis sur sucre, la restriction de la liberté est mauvaise par principe. Ça veut dire non pas qu'elle est impossible, mais qu'il faut des justifications très fortes pour justifier cette restriction. Deuxièmement, l'infliction de maux ne peut se justifier qu'en vue de prévenir les conduites qui nuisent à autrui, c'est le harm principle de John Stuart. À quoi s'ajoute, ce qui réfute le conservatisme moral, le principe suivant lequel, c'est mon texte 1, dans l'exemple, les institutions de toute société, y compris sa morale positive, peuvent être soumises à la critique. Dira-t-on que Hart oppose une morale de tolérance à une autre qui serait intolérante, rétrograde, etc. En choisissant, comme il le fait, d'argumenter sur le plan de la moralité critique et non pas sur le plan de la moralité substantielle, Hart échappe à ce soupçon. Il évite soigneusement de se prononcer sur le caractère moralement répréhensible qu'aurait ou que n'aurait pas l'homosexualité. Il a de même que la moralité sociale puisse réprouver cette conduite. Il reprend alors, mais ce n'est pas l'essentiel du propos, l'argument libéral classique de la nécessaire protection des minorités contre le risque d'une tyrannie de la majorité. Mais pour l'essentiel, son refus du moralisme juridique et du conservatisme moral se fonde exclusivement sur des principes métanormatifs, c'est-à-dire des principes de rang 2 ou, dans le vocabulaire que l'on voit, des principes de moralité critique. Selon lui, de tels principes doivent pouvoir obtenir, qui sont donc des principes d'évaluation des principes, c'est que de tels principes doivent pouvoir obtenir l'adhésion de tous. Or, la justification de la répression pénale de l'homosexualité, c'était la question qui était en débat à l'époque, hein, faut-il maintenir ou non la répression pénale, extrêmement violente, hein, on se souvient de castration chimique, par exemple, pour employer à l'encontre de Touré, qui était là-dessus, hein, mathématicien Alain Touré. Donc, à ce principe métanormatif fallacieux, pour l'essentiel, le refus du moralisme juridique et du conservatisme moral se fonde sur des principes métanormatifs susceptibles d'obtenir l'adhésion de tous. La répression de la justification de la répression pénale de l'homosexualité engage des principes critiques dont ses partisans ne pourraient pas raisonnablement accepter qu'on les applique à leur propre choix, ce qui prive cette position de ses adversaires de la justification forte que requiert, suivant les principes libéraux, toute restriction de la liberté individuelle. Une fois défini le noyau dur de ce qu'il appelle lui-même soft positivisme, je résume en deux points. Premièrement, rejet du moralisme juridique. Deuxièmement, et j'ai pas le temps de développer ce point ici, admission d'un regroupement partiel seulement entre le droit et l'éthique. Il devient possible, tout en restant positiviste, c'est-à-dire en se refusant à juger le droit tel qu'il est au nom d'une idée de ce qu'il devrait être, il devient possible de soulever la question irrecevable pour un positiviste dur de l'existence et de la justification de certains droits moraux. Toutefois, avant d'apporter une réponse à cette question, il convient de réfuter l'argumentaire utilitariste qui, soit directement, soit indirectement, rejette l'idée qu'il puisse y avoir des droits moraux dotés d'une validité intrinsèque et non pas dérivé du principe d'utilité. Hart en est convaincu, c'est mon texte 2, une fondation satisfaisante ne peut être donnée à une théorie des droits aussi longtemps que la recherche est menée dans l'ombre de l'utilitarisme. En ce qui concerne Bentham lui-même, la conviction de celui-ci, selon laquelle les droits autres que ceux que crée la loi positive sont des non-entities, c'est le terme qu'employait Bentham. Si cette conviction s'explique historiquement par son combat acharné contre les errements révolutionnaires, dont la déclaration des droits est à ses yeux le signe avant-coureur, eh bien, cette conviction, je citera, nous semble maintenant absurde. On pourrait d'ailleurs, construire une théorie utilitariste simple et directe de certains droits moraux en les fondant sur ce qu'il nomme des utilitarian entitlements. Mais là il fait une lecture critique de John Stuart Mill qui est très intéressante. Mill, qui a tenté de réconcilier l'utilitarisme et les droits moraux, Mill a fait le choix d'une théorie indirectement utilitariste, combinant un argument non utilitariste fondé sur le principe de liberté, tel qu'il est énoncé au premier chapitre de On Liberty, et un argument fondé sur l'utilité générale, qui lui est formulé dans son texte de utilitarianisme. Les deux sont traduits. Or, cette combinaison, n'est pas cohérente, car le principe de liberté et le principe d'utilité sont structurellement incompatibles. Mill aurait donc dû, d'après Haar, renoncer à l'argument utilitariste en faveur des droits, lequel jouera toujours, en fin de compte, contre l'existence de droits individuels fondamentaux, parce que le principe d'utilité peut, à un moment ou à un autre, exiger qu'on les sacrifie au nom de l'utilité générale. Comme Mill en a eu l'intuition, c'est vers le principe de liberté et non vers le principe d'utilité qu'il faut se tourner pour construire une théorie consistante des droits moraux. Il demeure un saut infranchissable entre le principe d'utilité agrégé, propre à ce qu'il appelle le pur utilitarisme, et l'affirmation de l'existence de droits humains fondamentaux. Pas de théorie utilitariste des droits. En gros, un peu plus compliqué, un peu simplifié l'argumentation de l'art. Le positivisme juridique, il faut l'admettre, a du mal à faire une place aux droits. Les efforts considérables développés par Haar pour tenter de faire une place aux droits dans le cadre d'un positivisme lui-même atténué en sont la preuve. C'est évidemment le cas, cette difficulté est évidemment le cas des versions les plus dures du positivisme juridique, Bentham, Tocqueville, qui vont jusqu'à récuser l'idée même de droit subjectif et en tout cas lui confère toujours une position dérivée. Right is a child of law, comme disait déjà Bentham. Mais c'est également le cas des formes plus souples de positivisme comme celle que propose Haar. C'est ce que montrent ses efforts, en partie seulement concluants, pour construire une théorie des droits qui ne soit pas située, comme il le souhaite, dans l'ombre de l'utilitarisme. La raison de cette difficulté est claire. Les droits subjectifs sont le cheval de Troie permettant au juste naturalisme de rentrer dans le jeu, alors que leur positivation, illustrée par la constitutionnalisation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme et théorisée par l'utilitarisme classique, Benthamien, en avait apparemment sonné le glas. Pour un positiviste de stricte obéissance, il n'y a pas de droit naturel de l'homme, il y a seulement, simplifié, des droits fondamentaux du citoyen. Le recours précautionneux chez un auteur comme Haar à une notion comme celle de moral right ouvre la voie à une réactivation de l'idée qu'il y aurait des droits indépendants du droit positif et supérieurs à lui, des droits pré- et supra-juridiques. D'où les réhabilitations contemporaines de positions juste naturelles. Point suivant, les juste naturalismes contemporains et la question des droits. La thématique des droits moraux occupe une place de choix dans l'argumentaire antipositiviste d'un certain nombre de philosophes du droit contemporain. Ce que le juste positivisme, y compris dans ses versions souples, ne parviendrait pas à penser, serait l'existence de droits qui ne sont pas d'abord positifs, même s'ils peuvent le devenir aussi, et qui ont même, par rapport aux droits positifs, un rôle fondateur. Bien évidemment, à l'arrière-plan de cette discussion se situe la question des droits de l'homme et de leur statut. Sont-ils de véritables droits juridiques ou faut-il les considérer comme des droits seulement moraux? Peut-on faire des droits sans mobiliser les statistiques, les théories classiques du droit naturel? Donc, j'ai évoqué la dernière. Alors, je vais donner d'abord deux exemples de philosophes du droit contemporains qui ont tenté de réhabiliter ce que le juste positivisme avait discrédité. Premier exemple, Michel Villet. Avant d'examiner les positions de certains représentants du juste naturalisme contemporain, il faut rappeler l'existence d'un courant philosophique qui se réclame expressément du droit naturel dit ancien, dénomination, j'ai dit la dernière fois que le juge, pour ma part, discutait. Dans ce cas, je choisis d'évoquer deux auteurs que réunit la suspicion à l'égard du juste naturalisme moderne, Michel Villet, donc, et John Phillips. On pourrait citer également Léo Strauss ou Alasdair MacIntyre, qui partagent, bien qu'ayant des positions philosophiques différentes, les réserves des deux précédents à l'endroit du rationalisme moderne et de son approche du droit. L'éminent romaniste qu'était Michel Villet n'a cessé de vilipender la désastreuse invention moderne que sont les droits subjectifs, dont l'origine se situerait dans l'ontologie nominaliste d'Unscot et de Guillaume d'Ockham, à la fin du Moyen-Âge, et il n'a cessé de déplorer l'oubli que cela entraîne du concept authentique du droit élaboré par Aristote et Thomas d'Aquin et mis en œuvre par le droit romain. La conclusion est sans appel, si qu'il est, l'apparition des droits de l'homme témoigne de la décomposition du concept de droit. En dépit de son caractère excessif, la critique villéienne du concept de droit subjectif a le mérite de souligner, et sur ce point je m'accorde avec lui, le caractère moderne de la notion. L'intérêt principal à mes yeux des analyses de Villet n'est pas historique. Sur ce plan, elles sont discutables, comme l'a montré notamment l'historien du droit britannique Brian Tierney, qui a réfuté de manière extrêmement détaillée les vues de Villet en ce qui concerne l'origine scotiste et ockhamienne de droit subjectif. Mais cet intérêt est d'abord philosophique. Villet montre que la formation du concept de droit subjectif, tout comme le légicentrisme, l'identification du droit à la loi, dont la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est l'expression éloquente, je rappelle, c'est bon d'avoir ça présent à l'esprit que dans la déclaration des droits de 1789, le mot le plus employé n'est pas le mot droit, mais le mot loi. Ce légicentrisme, c'est un réel en particulier qui a consacré cette expression, qui caractérise la déclaration des droits. Villet montre donc que la formation du concept de droit subjectif, tout comme le légicentrisme, va de pair avec une reconfiguration de la pensée du droit, au terme de laquelle la bilatéralité fondamentale du rapport juridique est oblitérée par l'unilatéralité, ou plutôt par l'unidirectionnalité des droits. Je cite, c'est mon texte 3, « Le droit est rapport entre des hommes multilatérales. Que vous en ayez conscience ou non, quand vous faites usage du mot droit, il s'agit d'une relation. Comment pourrait-on inférer une relation couvrant plusieurs termes d'un terme unique, l'homme ?» Fin de citation. Il y aurait lieu d'examiner plus attentivement, comme je le fais ici, les attendus épistémologiques et ontologiques de la conception villéienne du droit. C'est ce qu'a fait, par exemple, Pierre-Yves Kivigère, d'une manière, on va dire, plus bienveillante que la mienne dans le livre qu'il a consacré à la narration villéienne du droit. L'œuvre de Villet suggère l'existence d'un lien entre le dualisme ontologique de l'être et du devoir-être et la venue au premier plan des droits subjectifs dans la vision générale de ce qu'est le droit. L'affirmation de l'être des droits comme droit subjectif est concomitante de la dissociation du monde des faits et du monde des normes sanctionnée par la prétendue loi de Hume selon laquelle on ne peut dériver aus der Ehe. Les droits ne sont rien d'autre que le langage dans lequel se formule l'image de soi d'une modernité désorientée par la rupture du monde humain avec son assise traditionnelle, naturelle ou divine. Je passe maintenant à un autre exemple de néo-jus naturaliste, celui de John Finnis. Finnis, dont le livre très important mais très considérable et très massif aussi, Natural Law and Natural Rights, n'est malheureusement pas traduit. Il y avait eu un projet de traduction que nous espérions obtenir dans notre collection, mais il semble qu'il soit abandonné. À la différence de Strauss ou de Villet, John Finnis ne récuse pas ex abrupto la pensée moderne et son culte des droits. Il se donne plutôt pour objectif de réviser la grille conceptuelle de la philosophie contemporaine du droit en actualisant la tradition aristotélico-thomiste, tradition dont l'unité ne fait sens, je le note en passant, que si on adopte l'interprétation thomiste d'Aristote, ce qui, à mon avis, ne va pas de soi du tout, mais l'ambition du livre Natural Law and Natural Rights est de reconstruire les principes ahistoriques du droit naturel. Il faut distinguer les théories qui ont été formulées de ces principes, c'est-à-dire, bien entendu, elles ont un caractère historique. Principes ahistoriques qui seuls peuvent conférer aux lois positives une force obligatoire et remédier à l'incomplétude principielle des conceptions positivistes du droit. Ces principes sont, explique Finnis, les différents biens, les valeurs fondamentales que doit viser l'action humaine et qui orientent la raison pratique selon le modèle du spoudeios d'Aristote, de l'homme mûr et sagace, phronimos, qui conduit sa vie en accord avec ses principes. Contrairement à Villet, Finnis ne considère pas que les droits sont une déplorable lubie moderne. Au contraire, il soutient contre la propension de l'utilitarisme à relativiser les droits au nom d'une conception agrégative du bien commun, il considère que, je cite, la stricte inviolabilité des droits humains fondamentaux est une exigence fondamentale de la philosophie pratique. Mais l'inviolabilité des droits n'équivaut pas à leur inconditionnelle validité. En effet, leur contenu et leur attribution sont essentiellement controversés. Or, pour trancher ces controverses, il est besoin de principes qui, je cite Finnis, requièrent de ne pas être exprimés en termes de droit, en termes de rights. Le langage moderne des droits tend à mettre sous le boisseau les tensions qui existent entre eux. Par exemple, la tension entre les droits B et les droits A, entre les libertés négatives et les libertés positives, qui ont été soulignées notamment par Isaiah Berlin. Donc, tout en admettant que le langage des droits est, je le cite, une addition appréciable au vocabulaire reçu de la raison pratique, et en reconnaissant qu'il existe, écrit, des droits humains absolus, Finnis souligne que ces droits sont corrélés à des devoirs tout aussi absolus. Les droits subjectifs sont une expression de ce, mais une seulement, expression de ce qui est implicite dans le terme bien commun. Mais c'en est qu'une expression parmi d'autres. Le titre d'un des volumes des Collected Papers de John Finnis, Human Rights and Common Good, est révélateur de cette volonté de rééquilibrage. Les droits de l'homme ne doivent pas être dissociés du bien commun. C'est pourquoi certains d'entre eux peuvent devoir être limités aussi par d'autres aspects du bien commun. Ainsi, le droit à la liberté de choix peut être limité au nom du droit à la vie, ce qui, aux yeux de Finnis, justifie son engagement très actif dans le combat contre le droit à l'avortement. Bien que le propos de Finnis soit plus sobre que celui de Villet, on y observe la même réticence à l'égard de l'absolutisation moderne des droits subjectifs qui oblitérerait le lien structurel entre les droits et les obligations. Une telle position se fonde principalement sur des raisons morales et religieuses qui sont en tant que telles respectables, mais elles n'aident guère à discerner la nature spécifique des droits. Finnis indique avec perspicacité que la grammaire moderne des droits épouse implicitement le point de vue du bénéficiaire et non celui du prestataire. Une remarque très astucieuse, très remarquable. Ce choix, or ce choix, tend à oblitérer, pour finir, la connexion de ces droits à des devoirs, alors que la sémantique traditionnelle du jus privilégiait, et là-dessus il rejoint Villet, une approche bilatérale. Il en conclut, c'est mon texte 4, que du point de vue du bien commun, le concept de devoir a un rôle explicatif plus stratégique que le concept de droit. Les droits ne sont pas moins importants que les obligations, mais ce que le langage des droits dissimule, c'est que leur réalité est toujours relationnelle, donc relative. C'est précisément ce que contestera frontalement la thèse des droits de Dworkin, un des adversaires favoris de John Keynes. En dépit de la considération qu'elles inspirent, qui est réelle chez moi, les analyses de Villet, de Keynes, mais aussi de McIntyre ou de Leo Strauss, apparaissent tributaires d'une vision des communautés humaines dont l'adéquation avec la réalité des sociétés contemporaines me paraît problématique. Pour le dire autrement, ces analyses me paraissent méconnaître, consciemment ou non, les conséquences de ce que Tocqueville a nommé le fait providentiel de l'état social démocratique. Il me semble que l'égalité des conditions, dont Tocqueville fait tout ce type d'éléments caractéristiques des sociétés post-révolutionnaires, l'égalité des conditions a rendu inéluctable le langage des droits, comme le nomme Keynes ou Villet. Si l'affirmation des droits occupe tant de place dans la représentation du monde dans lequel nous vivons, c'est qu'elle paraît résulter nécessairement de l'égalité de toutes et de tous, en même temps qu'elle semble être le meilleur rempart contre les dangers de ce que Tocqueville appelait la tyrannie démocratique. De ce point de vue, l'espèce d'évidence dont bénéficient les droits dans la plupart des théories contemporaines est sans doute mieux en phase, même si elle doit être critiquée, avec la perception d'elle-même de société contemporaine que la méfiance dont font preuve les philosophes antiques. Dworkin, semble-t-il, nous parle plus ou plus directement que Villet ou Keynes. J'en viens donc à Ronald Dworkin et à sa thèse des droits, rights, theories. Ronald Dworkin substitue à la distinction usuelle en philosophie morale et en philosophie du droit entre théorie déontologique, paradigme supposé Kant, et théorie téléologique, paradigme Delta, une classification tripartite. Il distingue des théories goal-based, duty-based et right-based. Il entend ainsi souligner la spécificité d'une conception qui, comme la sienne, je cite, prend l'idée des droits tellement au sérieux qu'elle place ceci au fondement même de la moralité politique. Cette théorie n'ignore pas les considérations téléologiques et déontologiques, mais elle les subordonne dans sa partie profonde, comme dit Dworkin, autrement dit fondationnelle, à l'exigence inconditionnelle du respect des droits. Elle confère donc aux droits une portée normative indépendante de leur éventuelle inscription dans un corpus de normes positives, déclaration ou charte. Le noyau de ce que Dworkin nomme la rights thesis, expression improprement rendue dans la traduction française, par ailleurs satisfaisante, de taking the rights seriously, les traducteurs ont traduit rights thesis par théorie des droits. Je crois qu'il faut bien garder le terme, c'est une thèse. Et c'est bien comme une thèse que Dworkin entend la présenter. Le noyau, donc, de cette right thesis est la conviction selon laquelle il existe des droits qui, je cite Dworkin, sont naturels en ce sens qu'ils ne sont pas le résultat d'une législation, d'une convention ou d'un quelconque contrat hypothétique social. Toutefois, Dworkin évite d'utiliser le vocabulaire jusnaturaliste, le langage du droit naturel, car, dit-il, ce langage est associé à des considérations métaphysiques qui le disqualifient. Il ne dit pas d'ailleurs les mots. Mieux vaut donc parler de droits moraux, étant entendu que cette notion prend le relais de celle de natural rights, au moins en partie. Et voici la définition que Dworkin oppose des droits moraux, c'est mon texte 5, dans Matter of Principle. Alors je dois dire au passage que la traduction de ce texte est très contestable, pour ne pas dire catastrophique. Au point que certains aspects importants du raisonnement, je ne dis pas par coquetterie, mais que certains aspects importants du raisonnement de Dworkin sont rendus inintelligibles par la traduction. Bon. Donc je corrige un petit peu la traduction. Voilà la définition. Les citoyens ont moralement certains droits, c'est-à-dire des droits autres que ceux qui sont prévus par des dispositions positives et supérieurs à eux. Dans cette optique, une société peut être raisonnablement critiquée au nom du fait que ces dispositions, enactments, tout ça qu'on peut traduire, ne reconnaissent pas les droits que les gens ont. Les droits moraux, bien que susceptibles d'être intégrés aux droits positifs, sont des principes métaphysiques. Même si Dworkin s'interdit d'en chercher l'origine dans une nature humaine qu'il serait aujourd'hui hasardeux de reconstruire comme le faisaient Grotius, Hobbes ou Rousseau, ces droits ont incontestablement chez lui la fonction d'instrument critique et normatif qu'avaient les droits naturels dans les théories classiques. Dworkin affirme donc la nécessité de restituer aux droits les bases morales sans lesquelles ils risquent d'apparaître comme un simple instrument en vue de certains buts sociaux ou comme une application aveugle de règles positives. Il en résulte que les citoyens ont, je cite Dworkin, un droit moral d'enfreindre la loi lorsqu'elle est injuste. Les juges eux-mêmes peuvent pratiquer certains arrangements avec les règles de droit et même avec les faits. Ainsi, pour découvrir la décision juste dans un cas difficile, Hercule, le juge philosophe dont Dworkin construit le portrait dans « Prendre les droits au sérieux », Hercule s'attribue la faculté, je cite, « d'évacuer une certaine part de l'histoire institutionnelle, comme on dit de la jurisprudence, en la considérant comme une erreur. Il peut aussi considérer parfois que, je cite, « la morale de la communauté est inconsistante » et prendre, à l'encontre de celle-ci, une décision politique. Et bien évidemment, tout ce propos a pour arrière-plan la jurisprudence de la Cour Warren aux États-Unis et de toutes les décisions qu'elle a prises, notamment la fameuse décision risque d'ailleurs, qui est remise en cause aujourd'hui au Yes Way, donc en faveur de la possibilité de l'avortement. Et en fait, Dworkin donne une sorte de commentaire philosophique positif à cette politique volontariste de la Cour Warren pour modifier l'état du droit aux États-Unis, y compris éventuellement contre l'opinion d'une majorité. Le Hercule, le juge philosophe, a même l'obligation, tenez-vous bien, de mentir, c'est dit en toutes lettres, si, je cite, les raisons livrées par les droits moraux d'arrière-plan sont si fortes qu'il a une obligation morale de faire tout ce qui est en son pouvoir pour appuyer ses droits. En effet, les véritables droits juridiques, les véritables, ne saurait être en contradiction avec les droits moraux, donc s'il y a contradiction, il faut, de gré ou de force, aligner les droits juridiques sur les droits moraux. Dès lors, il n'est pas surprenant que Dworkin préconise je le cite, une fusion des questions juridiques et morales. C'est que pour lui, la Constitution repose sur des principes moraux abstraits, comme les clauses de due process of law et d'equal protection of the laws formulées par les 5e ou 14e amendements de la Constitution américaine. On est évidemment ici aux antipodes du positivisme, qu'il soit soft ou hard. À aucun moment, Dworkin ne cherche à démontrer sa thèse des droits, qui de ce fait ressemble plutôt à un postulat. La raison principale de cette postulation me paraît être que la thèse des droits évite les implications d'une conception goal-based. Certains droits peuvent devoir être sacrifiés au nom des intérêts de la communauté, ou d'une conception juste positiviste, comme celle de Ra, pour ne rien dire, des versions dures du positivisme. Ra prétendait pouvoir rendre compte du droit en se tenant au niveau des règles primaires et secondaires, sans jamais avoir à invoquer des concepts ou des principes moraux substantiels, dans la mesure où de tels principes sont essentiellement contestés. Il semble donc que l'élévation des droits moraux au rang de principe d'arrière-plan soit la manière la plus efficace de contrer le positivisme, et c'est en fait celle qui est choisie par Dworkin. Cela garantit aux individus, bien mieux que le positivisme, un périmètre protecteur, pour reprendre une expression qui est de Ra lui-même, et cela, je cite Dworkin, même si cela doit porter préjudice aux objectifs à long terme de la société. Dworkin paraît donc considérer comme acquis, premièrement, que les droits moraux existent, même si leur contenu est controversé. Deuxièmement, qu'ils peuvent, et sous certaines conditions, doivent être convertis en droits juridiques. Les droits juridiques, comme le droit en général, comportent une dimension morale inéliminable. De telles considérations supposent, bien sûr, certaines options en matière de philosophie morale d'une part, de philosophie du droit d'autre part, et ces options demanderaient à être justifiées, ce dont Dworkin, je dois dire, ne se soucie guère. Ainsi, les droits moraux n'ont pas leur place dans toute philosophie morale. Une conception déontologique stricte en ira l'existence, en recourant par exemple à une argumentation théologique. Seul Dieu a des droits, l'homme n'a pas de droits, mais seulement des devoirs. Un argument qui a été utilisé pendant des siècles pour contrer l'idée des droits naturels. Ou bien, comme Kelsen, on peut faire dépendre l'existence de droits d'obligations antécédentes. Par exemple, le droit à l'éducation des enfants est seulement la contrepartie d'une obligation incombant aux parents et à la collectivité. Il est donc redondant, inutile, peut-être même nuisible de parler de droits des enfants. Même chose pour les droits des animaux. Nous avons des obligations envers les animaux, ça ne veut pas dire, ça ne doit pas forcément être traduit en termes de droits des animaux. La reconnaissance de droits moraux implique à tout le moins un aménagement du cadre traditionnel des philosophies morales déontologiques. Quant à l'utilitarisme sous sa forme classique, celui de Bentham, il rejette, bien sûr, avec la plus extrême virulence, le sophisme que représente l'admission de droits moraux ou naturels. Ce sont mieux, explique Bentham, ce sont au mieux, explique Bentham, des raisons de désirer l'établissement de droits, et des raisons de désirer l'établissement de droits ne sont pas des droits. C'est un argument que Martel sans arrêt, Bentham. Nous ne devons pas confondre les raisons que nous avons de souhaiter l'établissement de certains droits avec l'existence de ces droits. Quant à la transformation des droits moraux en droits juridiques, elle pose des problèmes que d'ailleurs Bentham avait déjà soulignés. Le propre d'un droit juridique est d'être, semble-t-il, d'être opposable. Ce qui veut dire que des voies de recours existent en cas de violation de ces droits. Or, un certain nombre de candidats possibles au statut de droit moral peuvent difficilement être conçus comme des droits opposables, car il est malaisé de définir la personne ou l'instance, l'institution, à qui il incomberait de réparer leur violation. Je pense par exemple au droit au travail, proclamé par certaines constitutions ou déclarations des droits, ou encore au droit au logement, auquel on a voulu en France donner le statut de droit opposable, sans que cela change grand-chose à la situation de son logis. De tels droits moraux, en l'absence de toute sanction effective, peuvent-ils être autre chose que ce que le philosophe Joël Feinberg, auquel j'aurais aimé consacrer une partie de mon temps, mais il m'a fallu faire des choix, de tels droits moraux peuvent-ils être autre chose que ce que Joël Feinberg nomme avec ironie, mais une ironie aimable et sympathique, des manifesto rights, des droits destinés d'abord à être proclamés. Encore quelques minutes pour parler de Habermas. Bon, alors, parlons rapidement de Habermas. À partir des années 1980, Jürgen Habermas s'intéresse de façon privilégiée à des questions de philosophie normative, alors que, disons, dans les premières décennies de sa carrière, il s'intéressait d'abord, principalement, notamment dans son grand livre « Connaissance et intérêt », à des questions de philosophie théorique. À la suite de la publication en 1980 de la théorie de l'agir communicationnel, Habermas cherche d'abord à reconstruire la philosophie morale, l'éthique, sur une base communicationnelle. Par la suite, le droit va devenir un objet de réflexion privilégié. Mais là, il y a eu un changement très net, et très brutal dans ses positions. Dans ses Tanner Lectures, tenues en 1986 à Harvard, Habermas, dans une veine sous-blanc-ancienne, cherche à justifier ce qu'il nomme la moralisation saillante du droit, qui est selon lui indéniable et irréversible, et dont l'idée d'état de droit serait la traduction. Mais, contrairement à ce qu'il en est dans la perspective monologique du kantisme, un jugement que par ailleurs discutable, le noyau moral du droit n'est pas, selon Habermas, de nature substantielle, mais procédurale. C'est d'ailleurs le caractère procédural de la raison normative qui assure la continuité entre droit et éthique. Si la raison pratique n'est rien d'autre qu'une méthode de découverte et de validation des normes par une communauté de communication idéale, alors, cette continuité va de soi. Là, Habermas en convient, tout bonnement remplacé la conception classique du droit naturel, comme un corps de principes substantiels, par une conception procédurale de la rationalité, et surmonté simultanément l'abstraction des théories jus naturalistes et la méconnaissance positiviste de ce que Habermas nomme, toujours dans ce texte, qui était traduit sous le titre « Droit et moral », ce qu'il nomme les bases morales du droit positif. Le livre, paru quelque temps après « Droit et démocratie », c'est une édition qui est originale, c'est « Factualité et réalité », c'est nettement moins vendeur, que « Droit et démocratie », mais en fait, les traducteurs, je pense, les éditeurs, l'éditeur a choisi d'intervertir le titre et le sous-titre. Parce que, effectivement, vous parlez des rapports entre droit et démocratie, ça parle plus que d'actualité et d'humanité. Un peu hard. Bref, droit et démocratie abandonnent cette subordination du droit à la morale et concentrent l'intérêt sur l'interaction entre normes morales, normes juridiques et principes politiques démocratiques. Je résume l'argument de ce gros livre. La dynamique du droit moderne est commandée, explique Habermas, par une tension au sein même du droit entre factualité et validité. Et non pas seulement, donc c'est une tension interne au droit, ce n'est pas seulement une tension entre les normes et la réalité des actions évaluées d'après elles. Mais au sein même du droit, il y a constamment, explique Habermas, une tension entre ces deux pôles que sont la validité des normes, considérées par Kelsen comme absolument indépendantes de leur application au politique, et et la factualité, en termes kelseniens, l'efficacité des normes. La définition du droit comme, je cite, catégorie de la médiation sociale entre factualité et validité, c'est le titre du premier chapitre du livre, s'oppose d'une part à la compréhension positiviste du rapport entre les normes juridiques et leur effectuation, qui prive la validité normative de toute signification autonome, ce qui compte c'est le droit tel qu'il est appliqué et non pas le droit tel qu'on le pense ou qu'on le rêve, et d'autre part, à une vision, il s'oppose à une vision idéalisante du droit qui fait l'impasse sur sa dimension factuelle et s'interdit ainsi de comprendre la différence structurelle entre normativité éthique et normativité juridique. Donc, cette différence que les conférences les Tanner Lectures contestées ou annulées se trouvent maintenant réaffirmées avec force par Habermas et donc l'autonomie du droit par rapport à la normativité. Dès lors que les formes classiques de fondation de la normativité sont inopérantes, la délibération démocratique, elle-même comprise selon un paradigme procéduraliste, est l'unique instance de justification des normes juridiques. Autrement dit, c'est la thèse centrale de l'ouvrage, il y a un lien nécessaire, un lien de co-originarité entre d'une part, l'autonomie privée, que le droit privé a pour mission de garantir sous la forme de droits fondamentaux, et l'autonomie publique, c'est-à-dire l'exercice démocratique de l'autolégislation. Bref, il existe, aussi par Habermas, un lien interne entre état de droit et démocratie. On mesure l'ambition du propos. Il s'agit de substituer au paradigme libéral l'état de droit comme protection de l'autonomie personnelle et à celui de l'état social, l'état démocratique, comme garant des droits de participation et d'une jouissance égale des biens collectifs, un troisième paradigme qui se définit comme procédural. La dynamique communicationnelle à l'œuvre dans la délibération politique institutionnalisé est le principe générateur de la normative. Ce changement de paradigme, comme dit Habermas, est selon lui l'unique moyen de faire droit aux deux propriétés caractéristiques des sociétés complexes. D'une part, la différenciation des types de normativité, avec en particulier le décrochage du droit par rapport à la morale, et d'autre part, l'interaction forte entre les procédures juridiques de l'état de droit et la dynamique politique démocratique qui fait de chaque sujet de droit un co-législateur, comme disait Kant. Quelles conséquences cela a-t-il en ce qui concerne les droits? À chacune des sphères normatives distinguées par Habermas correspond un type particulier, un type spécifique de droit subjectif. Il y a les droits moraux, des droits juridiques et des droits politiques. Cette distinction est tout à fait classique. Ce qui l'est moins, c'est la compréhension dynamique que propose Habermas de la relation entre ces sphères et ces types de droits. Premièrement, là je paraphrase Habermas, la positivation grâce aux déclarations, aux grandes déclarations, la positivation des droits moraux précédemment garantis par le droit naturel permet la constitution d'une sphère de droit défensif, comme dit Habermas, assurant aux individus une autonomie privée régulée par les principes de l'état de droit libéral. Deuxième, la politisation des droits individuels libéraux donne naissance aux droits du citoyen, qui est aussi un des étapes historiques. Aux droits du citoyen, ces droits garantissent l'autonomie publique de politisation dans le cadre d'une procédure démocratique. Troisième étape, si l'on veut, par un processus récursif, les droits démocratiques offrent en retour une garantie aux droits juridiques et moraux qu'ils font passer, comme disait Kant, du statut de droit provisoire à celui de droit péremptoire. En même temps, l'exercice délibératif, qui implique de ne pas raisonner en première personne, assigne certaines normes à l'exercice des droits individuels. C'est ce qui se vérifie lors du passage de l'état de droit libéral à l'état de droit démocratique et social. S'établit ainsi une coordination fonctionnelle entre les diverses catégories de droits subjectifs qui n'annulent pas les différences structurelles qui existent entre elles. Je cite, c'est mon texte 7, « Nous ne devons pas confondre les droits fondamentaux qui apparaissent sous la forme positive de normes constitutionnelles comme de simples projections des droits moraux. De même, il ne faudrait pas, comme c'est la tentation du positivisme juridique, faire des droits moraux du sujet et des droits juridiques, des droits moraux du sujet moral et des droits juridiques de la personne privée, de simples spécifications des droits politiques du citoyen. Néanmoins, par contraste avec l'absolutisation des droits individuels par le libéralisme, le républicanisme de Habermas implique un primat de l'ordre juridique objectif sur les droits subjectifs qu'il ne garantit pas seulement, mais fonde. La théorie habermasienne de normativité juridique a l'ambition, je le cite, de naviguer entre les écueils du positivisme juridique et du droit naturel. On peut toutefois se demander si les moyens mis en œuvre par Habermas ne conduisent pas, volens nolens, à une impasse. Soit on aboutit à une variante du positivisme de la loi chère aux juristes du XIXe siècle, la loi, c'est la loi. Soit on débouche sur une forme rénovée de jus naturalisme, où la rationalité délibérative et procédurale se substitue à la raison substantielle et monologique des théories classiques du droit naturel. Je précise que Habermas voit rouge quand on, c'est-à-dire je, lui soumet cette possible interprétation de sa pensée. Il n'accepte pas du tout, il n'accepte pas du tout d'être rangé dans le cadre d'une sorte de néo-jus naturaliste. Et il se définit même, ce qui pour ma part est tout à fait invraisemblable, comme positiviste. Mais peut-être parce que tout simplement les concepts de jus positivisme et de jus naturalisme n'ont pas la même acception chez lui que celles qu'ils peuvent avoir chez d'autres, comme moi par exemple. Dans la première perspective, la perspective positiviste, seuls sont vraiment des droits ceux qui bénéficient d'une garantie sociale. Les droits moraux et les droits juridiques ne sont alors au mieux que des droits politiques indirects, déclassifiés en quelque sorte. Dans la seconde, le primat reconnu aux droits fondamentaux et aux normes de l'état de droit démocratique ne se justifie que parce qu'il rend lui-même possible l'autonomie morale des sujets. Dans les conditions de la modernité avancée, nous avons sans doute besoin d'un droit autonome, mais seulement en vue d'exigences morales formulées en termes de droit, Il est à craindre que cette dernière position soit risqué dans une société pratiquant au quotidien le polythéisme des valeurs et qu'elle fragilise la garantie la plus solide dont elle dispose pour assurer la coexistence de ses membres, celle qu'offre un droit désenchanté, neutre quant aux valeurs éthiques et religieuses et assurant l'actualisation des institutions auxquelles s'adosse, le vivre ensemble. Ça, c'est mon commentaire, ça, je ne peux plus avoir mal. Je termine par un bref bilan d'étape, ouvrant la voie à ce dont il sera question la prochaine fois. Le discrédit des axiomatiques jus naturalistes, lui-même consécutif à de profondes transformations politiques et sociales, a privé le droit et les droits de l'assise théologique et métaphysique sur laquelle il repose, ce que n'accepte pas d'ailleurs un auteur comme John Philips. Dès lors, plusieurs voies sont possibles. On peut prendre acte de la disparition d'un poids de référence fixe et s'accommoder du caractère intégralement positif du droit. En ce cas, il faut renoncer à conférer au droit, pluriel, rights, quelque absolument que ce soit. Ils sont des produits momentanés d'une histoire inachevée. Quelle est la position, pour quelqu'un dont j'aurais aimé parler longuement, de Niklas Luhmann, ou à certains égards, celle de Kelton? Deuxième option, toute différente, ressusciter au sein même du droit devenu positif une sorte de transcendance interne dont participeraient les droits fondamentaux. C'est ainsi qu'on peut comprendre la démarche de Raab ou celle de Habermas. La troisième option est celle du néo-jus naturalisme. Elle consiste à se tourner vers des figures très modernes du droit naturel pour échapper aux apories de la modernité dont les droits de l'homme sont une illustration. La quatrième option, que je nommerai crypto-jus naturaliste, est celle choisie par Dworkin ou bien par d'autres auteurs dont j'aurais aimé parler, comme Longfellow ou Joel Feinberg. L'un, un juriste américain, l'autre, le droit. Cette quatrième option consiste à se donner un corps de principe fondateur, assumant le rôle qui était celui des droits naturels dans les théories modernes du droit naturel, le paradigme fourni par Hobbes. Aucune de ces options ne me paraît élucider de façon complètement satisfaisante le statut de la normativité juridique, et en particulier, aucune d'elles ne me semble parvenir à définir précisément la situation ontologique des droits. Qu'en est-il de l'être des droits? C'est ça le fil conducteur de mes réflexions. À l'exception de la première option, celle d'un positivisme radical qui dissout la normativité dans la factualité, les différentes options ne parviennent pas, pour des raisons différentes, à établir entre le normatif et le factuel, entre le devoir-être et l'être, un lien qui respecte leur spécificité tout en pensant leur articulation. Le dualisme ontologique et épistémologique, français du droit et des droits. Ça, c'est une thèse chez mes propres. Si l'on veut y échapper à ce dualisme, il faut s'extraire de la fausse alternative entre un normativisme doctrinaire à la Kelsen et la réduction de la normativité à la factualité. C'est ce que tente de faire le positivisme soft de Raab et la théorie communicationnelle de Habermas, sans parvenir néanmoins, à mes yeux, à assurer au droit, right, un statut aussi solide que celui que leur confère, mais il faut alors en payer le prix, le néo et le crypto jus naturaliste. Il me semble qu'une conception institutionnelle du droit et des droits pourrait constituer une troisième voie, à condition que l'on se dote d'un concept suffisamment riche de ce qu'est une institution et en particulier une institution de droit. On trouve une ébauche d'une telle conception chez, par exemple, le philosophe John Searle, et chez un certain nombre de théoriciens du droit contemporain, et bien auparavant déjà, chez Hegel, Savigny ou Maurice Auriol, encore. Et c'est par eux que je commençais la prochaine fois. Voilà.